Personnes qui sont là pour les premières fois, soyez les bienvenus au milieu de nous. Que le Seigneur puisse vous bénir et également vous fortifier. Un jour, au siège d'une direction d'une grande société d'affaires, une dépêche très importante venait d'arriver. Et les directeurs se réunirent et en quelques minutes, l'endroit devient la scène d'une agitation pas possible, intense. Les téléphones sonnaient, les messages fusaient, les mails furent envoyés. Et les personnes écrivaient au clavier des ordinateurs, beaucoup de messages furent envoyés. Mais de quoi s'agitait-il? Il y avait une question vitale qui était liée à cette information qui était importante. Il fallait une réponse. Et cette réponse-là, elle fallait qu'elle soit sûre et sans équivoque. Sans cette réponse, aucun directeur responsable ne se sentait en paix. Et tout le monde se demandait, mais cette nouvelle est-elle vraie ou pas? Telle était la question. Et la question n'était pas est-ce qu'elle était agréable ou pas, ou si c'était une bonne idée, ou si c'était rassurant. Non, là. Ce qui comptait, c'était est-ce la vérité? Personne ne critiqua l'homme qui avait apporté le message. Personne ne fit aucune remarque sur l'agence. Ce qui comptait, c'était le message. Pourquoi ce message avait-il de l'importance? Parce qu'il, s'il était vrai, il voulait agir en conséquence et engager la firme. Et si la nouvelle était une erreur, c'était très dangereux de s'y engager. Mais si elle était vraie, c'était dommageable de ne pas s'y engager. Aussi, devait-elle savoir si cela était vrai. Et elle voulait savoir à tout prix. Sur le plan moral et spirituel, nous vivons dans un monde où la lumière de la vérité est tellement mêlée à l'obscurité que parfois on avance et on tâtonne pour voir si telle ou telle chose sont vraies, telle ou telle chose dit-elle la vérité. Notre monde occidental est plongé dans la pénombre spirituelle et elle se pose cette question fondamentale. Mais qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? N'est vérité pour l'homme moderne que ce qui plaît à son cœur. Pour qu'une chose soit acceptée aujourd'hui, il ne faut plus nécessairement qu'elle soit vraie. Elle conviendra d'autant mieux qu'elle sera facile et qu'elle n'entrera pas en conflit avec ma manière de voir les choses. D'où les phrases, comme peut-être certains en ont entendu. Toutes les religions sont bonnes, pourvu qu'on y croit. Dieu est le même pour tous. Il n'y a qu'un seul Dieu, et il est le même pour tous. Certains iront jusqu'à dire que la vérité ne m'est vérité lorsqu'elle sert mes intérêts. Ceci dit, je crois que la majorité de nos concitoyens préfèrent une erreur néfaste qu'à la vérité salutaire. Mais je suis convaincu qu'il reste des chercheurs qui cherchent la vérité, qui, pour eux, la vérité n'est pas un vain mot. Et je crois que parmi nous, il y a de chers amis qui étouffent sous les poids de la tradition. Et la tradition erronée qui leur a enseigné, qui désire, comme l'appellent certains, l'air pur de la vérité. Un homme écrira ceci, pour atteindre la vérité, il faut que, une fois dans sa vie, il faut se défaire de toutes les opinions qu'on a reçues. La Bible dit, dans Jean chapitre 18, et les versets 36 à 38, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis né et je suis venu dans le monde pour un témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Phrase qu'a dit Jésus. Pilate lui répondit, « Mais qu'est-ce que la vérité ?» Un deuxième passage, dans Jean chapitre 14, et le verset 6, et nous l'avons chanté, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Également dans Jean chapitre 17 et le verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Pourquoi? Parce que ta parole, elle est la vérité. Mais peut-être que quelqu'un parmi nous dira, mais où trouver la vérité? Où trouver la vérité malgré tout? Il y a beaucoup de jeunes qui vont jusqu'à Katmandou pour la trouver. Katmandou se trouve en Inde. Et ils vont jusqu'à là-bas pour y trouver cette vérité. Mais comment y arriver au pays où il y a 33 millions de dieux? Comment trouver la vérité? Il y a un tel engouement, mais ce que ces jeunes ne savent pas, ce que Bouddha, à la fin de sa vie, dira, je cherche encore la vérité. Donc, il n'était pas la vérité. La vérité n'est pas une sorte d'héritage qui nous viendrait de nos parents ou que nous possédions de droit à la naissance. Un homme avec qui je parlais de ces choses m'a dit, mais la vérité, elle se trouve en nous. Nous avons en nous toute la vérité nécessaire. Il faut juste la découvrir par tel ou tel moyen. Et ce n'est pas ce que nous apprenons, ni même la Bible, qui va nous montrer qu'est-ce que la vérité. La vérité, elle est en nous. Je ne suis pas d'accord. Parce qu'un roi de la Bible a compris cela. Dans le psaume 51, il dira ceci. « Je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Mais toi, tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Mais voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. La vérité se trouve-t-elle en moi ? Or, là où il y a le péché, là est l'erreur. Et l'erreur n'engendre jamais la vérité. Dans Romains chapitre 1, le verset 18 et le verset 25 dira ceci, « La colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » C'est là tout autre chose que d'être détenteur de la vérité. C'est au contraire le retenir captive injustement. C'est lui préférer l'erreur. Cela veut dire concrètement qu'il nous est arrivé de savoir qu'une chose était fausse, mais nous l'avons préférée à la vérité parce qu'elle nous convenait le mieux. Nous avons fait taire notre conscience et lorsqu'elle protestait contre une atteinte à ce que nous savions être la vérité, nous avons ainsi tout doucement pris l'habitude de substituer l'erreur à la vérité, le péché à la sainteté, la souillure à la pureté. Nous-mêmes à Dieu, et nous sommes arrivés à cet état extrême que l'on peut lire dans l'Épître aux Romains, où nous avons préféré la créature plutôt que le Créateur, la création plutôt que le Créateur, nos droits plutôt que ceux de Dieu. Et à force de se croire eux-mêmes, les hommes sont arrivés même aux superstitions les plus grossières. Par exemple, je vais vous citer quelques exemples de superstitions que des hommes, par le passé, ont considérées comme vraies. Dans les contrées de l'Europe du Nord, on prétendait guérir d'un catarrhe en s'enroulant des chaussettes chaudes et humides autour du cou. Un médecin sorcier guérissait un malade semblable en donnant au patient une poudre à avaler. Le lendemain, la douleur était descendue de la gorge dans l'estomac. La poudre était faite de baies, de grenouilles desséchées et de vieux disques de gramophones moulus ensemble. Des peuplades croyaient que le choléra était enfermé dans des volcans et relâché lors des éruptions. Refusant tout traitement médical et se tenant sur le seuil de leur maison, ils faisaient feu de toutes leurs âmes et tiraient les flèches pour essayer d'effrayer le volcan. Dans certaines régions de la Grande-Bretagne, on croyait qu'une grenouille tenue dans la bouche était un bon remède contre les ulcères. Une tête de poisson vivant, tenue dans la bouche et puis remise dans l'eau, guérissait de la coqueluche. Et le fait de toucher un mort faisait passer de la maladie du vivant jusqu'à le corps du mort. Nos ancêtres traitaient l'asthme avec des poumons de renard séchés, pilés dans du sang de hibou. 30 escargots, 30 vers coupés et broyés, le tout mélangé à du lait et de l'eau de source guérissait de la tuberculose. Il y avait aussi des remèdes universels. D'ailleurs, un philosophe grec avait foi dans l'application externe de feuilles de chou pour toute indisposition. Un autre praticien d'il y a 2000 ans avait élaboré un remède composé de 62 ingrédients qui étaient supposés tout guérir. Mais en conclusion, ne guérissait rien. Tout cela était, entre guillemets, des vérités qu'on appelait des superstitions. Croyez-vous, avec l'évolution de la médecine, on peut plaindre ces gens qui savaient que c'est vérité médicale pour se soigner. Mais croyez-vous pour le salut éternel de votre âme? La Bible nous dit en 2 Corinthiens 11, verset 14, que Satan se déguise en ange de lumière et il est le maître dans l'art de camoufler ses erreurs et de les faire passer pour des vérités. C'est là le maître dans cette matière, le diable. Ceux qui ont ajouté foi au remède que je viens de décrire n'ont pas été fleurés par le moindre trou. Pour eux, c'était vrai. Ils croyaient que cela était vrai. Ils ne doutaient pas de ces choses. Des millions sont arrivés là dans le domaine des choses éternelles. Et c'est avec la plus grande sincérité qu'ils croient que ce que la Bible dit en 1 Timothée chapitre 4 et le verset 7, le conte de vieilles femmes et des fables qu'elle nous conseille de repousser. Mais maintenant la question se pose, mais comment distinguer ce qui est vrai et ce qui est faux? Comment distinguer? Certains diront, peut-être les miracles. C'est ce que certains affirment. Les miracles sont pour eux le seul critère de vérité. Là où il y a le miracle, là est la vérité. En sommes-nous si sûrs? Car si la vérité se découvre dans les miracles, la question se pose, mais oui, bien sûr, les miracles. Mais comment distinguer les vrais miracles des faux miracles? Peut-être que cela peut choquer, mais il faut avoir les choses en face. La Bible nous parle de miracles opérés par celui qui se déguise en ange de lumière. En voici par exemple, dans la Bible, l'Ancien Testament nous relate l'histoire de Moïse, qui fut le libérateur d'Israël. Ils étaient en oppression pendant 400 ans au pays d'Égypte. Et Moïse se présenta devant le Pharaon avec la mission de faire sortir le peuple d'Égypte. Il crut le convaincre en faisant devant lui un miracle qui devait authentifier sa mission. Il y jeta par terre son bâton et le bâton devint un serpent. C'était là indiscutablement le miracle de Dieu. Mais le Pharaon ne fut pas perturbé. Il fit appel à ses enchanteurs, ses magiciens, et eux-mêmes firent de même. Ils jetèrent tous leurs bâtons, et leurs bâtons devinrent des serpents. Honnêtement, deux questions. De qui venait le miracle de Moïse? De Dieu. Et de qui venait le même miracle fait par les magiciens? Le miracle n'est pas une garantie de la vérité. La Bible ne dit-elle pas en 2 Thessaloniciens chapitre 2, les versets 9 et 10, que l'apparition prochaine de l'Antichrist, le grand dictateur mondial, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges, de mensonges, avec toutes les séductions de l'iniquité, pour que tous ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Peut-être vous me direz, peut-être les sentiments. D'autres croient que la vérité se trouve dans l'intensité des sentiments. Il suffit de voir une dame qui a une belle voix et qui chante des paroles profondes afin d'être émue, afin de pleurer, afin de ressentir des frissons, afin de ressentir un amour. Ils disent que quand quelque chose les soulève ou les remplit d'une émotion qui va jusqu'aux larmes, ah, ça, ce ne peut qu'être la vérité. Mais la vérité n'est jamais en fonction des sentiments, fussent-elles les plus exaltés. D'ailleurs, on peut lire ceci dans un livre de la Bible, Ézéchiel chapitre 8 et le verset 14, où nous lisons ceci. « Dieu me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, « Tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Or, Tammuz est une divinité phénicienne correspondant à l'Adonis des Grecs. La vénération de ces femmes et leur amour pour ce qu'elles croyaient être la vérité avait-elle qu'elle atteignait une extase qui était mystique et qui les faisait pleurer également. Alors la question est, mais est-ce que les sentiments sont un critère de vérité? D'ailleurs, Dieu qualifie cette scène d'une expression terrible. C'est une abomination. Peut-être me direz-vous, peut-être avec les expériences. D'autres croient que la vérité réside dans les choses qu'ils ont expérimentées. Donc pour eux, l'expérience serait synonyme de vérité. Dans le livre de Jérémie, on découvre au chapitre 44 que l'expérience la plus probante, elle peut être en contradiction avec la vérité. Au verset 15, on lit ceci, « Tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux, et toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre, répondirent à Jérémie, « Nous ne t'obéirons rien de ce que tu nous dis au nom de l'Éternel. Nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations comme l'ont fait nos pères, nos rois et nos chefs. Alors nous avions du pain pour nous rassasier. Alors nous étions heureux et nous n'éprouvions pas de malheur. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. Pour des raisons qui me prenaient trop de temps, ces femmes justifiaient leur abominable conduite par l'expérience. L'expérience leur avait appris que mieux valait servir et prier cette idole qui était la reine du ciel que de servir le seul, le Dieu vivant et vrai. Cette erreur était devenue pour ces dames la vérité. Mais la question se pose encore une fois, mais où donc trouver la vérité? Où iriez-vous pour être sûr d'avoir des billets de banque authentiques au-delà de tout doute, là où la contrefaçon n'est pas possible, à la source. À la source, là où on les fabrique, c'est-à-dire à la Banque nationale. Si vous attendez d'en recevoir un millième main, vous augmenterez le risque d'en avoir de faux. Et même s'ils sont bien imités, elles restent des faux. Dans le domaine du salut, il n'y a qu'une vérité authentique, celle dont l'apôtre Pierre parlait en ces termes. Sous le ciel, il ne nous a été donné aucun autre nom par lequel il nous faille être sauvés. Et c'est le nom de Jésus. Et c'est lui, le porteur de ce nom, qui a dit en parlant des Saintes Écritures, « Ta parole est la vérité. La vérité est contenue et révélée dans un livre, la Bible. » La vérité est contenue dans un livre et c'est la Bible. C'est celui qui est le plus répandu dans le monde et c'est celui-là que je tiens dans la main, qui a inspiré de nombreuses personnalités, Blaise Pascal, Victor Hugo, Jean-Sébastien Bach, etc. Un jour, le docteur Meyer, lors d'une visite aux États-Unis, avait pris le train pour Chicago. Et c'était un assez long voyage. Il avait une Bible sur un genou et un indicateur de chemin de fer sur l'autre. Un homme entra vers le compartiment et vit la Bible. Et il fit cette remarque. « Je pense que votre vieux livre est démodé. » Le docteur Meyer répondit. « Mais que voulez-vous dire ?» Le voyageur, vous savez que l'Ancien Testament est composé d'un tas d'histoires, de traditions que nous pourrions bien appeler folkloriques, et le Nouveau Testament accepte tout. Le docteur Meyer lui répondit en ces mots, « Écoutez, quand j'ai quitté le dépôt ce matin, j'ai acheté cet indicateur. Je ne sais pas qui l'a arrangé, qui l'a imprimé, mais voici 4 heures que je l'observe et le mets à l'épreuve. J'ai découvert que la liste des arrêts et l'horaire correspondent exactement à l'itinéraire que je suis. Je commence à croire que cet indicateur, et je sens qu'il s'est vérifié exact dans le trajet déjà parcouru. Je peux me fier à lui jusqu'à Chicago. L'autre voyageur ne répondit pas. Et le docteur Meyer continua. Ce vieux livre, comme vous l'appelez, a été éprouvé par d'innombrables millions. Je l'ai éprouvé moi-même depuis mon enfance. Prenez ces prophéties, elles se sont accomplies. C'est l'indicateur du pèlerinage humain. Et si vous le mettez à l'épreuve, comme je l'ai fait toute ma vie, vous vous confierez en lui jusqu'au bout et vous sauriez avec certitude que vous atteindrez votre destination prévue. Victor Hugo a dit, mais il est un livre qui contient toute la sagesse humaine, éclairée par toute la sagesse de Dieu. Et ce livre est la Bible. Mais de quelle vérité s'agit-il ? La Bible nous révèle Jésus-Christ, qui a dit, parlant de lui-même, cette formidable parole, « Je suis la vérité ». Et nous l'avons chanté, qu'il est la vérité. Et nul ne vient au Père que par moi. Tout l'Ancien Testament est comme un tableau qu'un peintre aurait fait, comme un splendide décor. Et au Nouveau Testament, Jésus apparaît comme c'est de vérité, le Fils de Dieu. D'ailleurs, Jean chapitre 1, verset 14 nous dit « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Le même chapitre, verset 17, « La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Jean chapitre 14, verset 6, Jésus dit « Je suis la vérité. » On comprend maintenant que la vérité n'est pas la propriété de telle ou de telle personne. Mais la vérité est une personne qui correspond à la saine doctrine et aux saintes écritures, elle-même appelée la vérité. Jésus correspond à la parole comme un cliché d'imprimerie. La Bible, c'est la vérité imprimée et Christ est le cliché imprimant. Jésus a prouvé l'authenticité de sa personne en disant ceci, mais sondez les Écritures. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais qu'est-ce qu'elle peut apporter à ma vie? Qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce que la vérité peut apporter à ma propre vie? Dans le psaume 85 et le verset 10, on lit ceci, la bonté et la vérité se sont rencontrées et la justice et la paix se sont entrebaisées. Ce verset nous met en présence de deux données irréductibles opposées. Par exemple, d'un côté, la justice et la vérité qui réclament leurs droits, et de l'autre côté, la bonté et la paix, qui ne peuvent satisfaire les deux premières. La justice et la vérité ont des exigences imprescriptibles. La justice de Dieu et la vérité de Dieu nous condamnent, parce que nous sommes pécheurs. La Bible dit que nous sommes tous pécheurs. D'ailleurs, nous avons lu dans le psaume 51, où le roi David le reconnaît qu'il est pécheur, qu'il est né pécheur, qu'il a été conçu dans le péché, et nous sommes tous pécheurs. La vérité qu'est la Bible nous dit ceci, que l'homme naît pécheur. Et la justice de Dieu, la vérité de Dieu réclamait que le pécheur mourait. Parce que c'était justice que l'homme mourait dans son péché. Et c'était vrai et juste. On ne peut pas être bon au détriment de ce qui est droit et vrai, de ce qui est vrai et juste. Un président du tribunal ne peut pas absoudre un coupable au nom de quel bon sentiment, sans trahir la justice dont il est le garant. Et au détriment de la partie innocente, ce serait un crime et ce juge deviendrait complice du crime. Dieu, c'est le juge incorruptible. Nous sommes les coupables. Dieu porte le glaive de la justice et du droit, mais il a dans son cœur des sentiments de bonté et de paix envers nous. C'était là le dilemme. Mais comment allait-il résoudre sa justice et sa vérité? Parce que nous méritions tous la mort. Je méritais la mort. Moi le plus pourri, moi le plus méchant, moi qui faisais plein de choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu, moi qui blasphémais, moi qui levais le poing contre Dieu, qui disais, mais Seigneur, mais pourquoi? Le dilemme était là. Le dilemme était là. Mais il a résolu. Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, mais ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, en lui seul. Jésus, lui, qui n'avait jamais péché, s'est présenté entre les deux parties. Il a pris sur lui, à son compte, la dette de nos péchés. Il a pris ma liste, la liste de Kevin, de tous les péchés de Kevin. Il a dit, Père, je prends cette liste et je vais la clouer sur la croix. Je vais donner ma vie pour Kevin. Je vais donner ma vie pour chacun d'entre nous. Il prendra la liste de chacun d'entre nous, il dira, Papa, j'irai pour le péché d'un tel, le péché de Kevin, le péché de chacun d'entre nous, et je vais le porter à la croix. Ce n'est pas eux qui prennent ma vie, mais je donnerai ma vie pour eux, parce que je les aime. Même si nous ne nous l'aimons pas, même si chacun fait sa propre vie, lui, il nous a aimés. Il n'a rien attendu en retour, mais lui l'a fait. Son âme a goûté la mort et il a été abandonné. Il a subi l'abandon de la croix, mais à la croix, tout a été accompli. Tout a été accompli et maintenant, par cette mort à la croix, nous avons la vie éternelle. Nous pouvons être émancipés Dans le monde, l'émancipation se fait par l'expérience du plaisir ou autre chose. Mais la véritable émancipation se fait là, à la croix du calvaire, là où Christ a tout accompli, là où Christ a cloué nos péchés et l'a résolu pour tous. Maintenant, en Christ, nous sommes justifiés. Maintenant, en Christ, la vérité nous a franchis et nous rend libres. Cette liberté qui est réelle. Chacun sait que quand un coupable meurt, l'action judiciaire est éteinte. On ne peut plus rien faire contre un mort. Or, quand quelqu'un croit de tout son cœur que Jésus est mort, condamné à sa place, Dieu le considère comme étant mort avec son Fils. La vérité et la justice sont satisfaites. L'amour, la bonté, la paix qui se lèvent sur le monde. Dieu offre à quiconque se repent et croit le salut, la paix et la vie éternelle. Vous pouvez recevoir tout cela et bien plus en recevant Jésus dans votre cœur aujourd'hui. Comme vous ouvrez la porte de votre maison à un ami. Lorsqu'un ami est de passage, on ne le laisse pas dehors, on ferme la clé, il reste dehors. Non, on s'empresse d'ouvrir la porte parce que c'est mon ami. Parce qu'il l'a prouvé à la croix du calvaire. Parce qu'il m'aime. Et parce que je n'ai rien fait pour. Si ça tenait qu'à moi, je défoncerais la porte. Mais je l'ouvrirai la porte et je l'inviterai. Jésus, viens. Jésus, viens dans ma vie parce que j'ai besoin de toi. Et une fois à l'expérience de cette vérité, nous connaissons la réelle liberté en Jésus. Pour terminer, parlons de cet homme Pilate qui posera cette fameuse question, mais qu'est-ce que la vérité? Le procureur romain qui a connu la vérité, qui l'a même défendue, mais qui est aujourd'hui en compagnie des perdus parce qu'il ne l'a pas reçue. Jean chapitre 18, au verset 37, dit ceci, mais Jésus lui répondit, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Mais Pilate lui dit, mais qu'est-ce que la vérité? Pilate reçoit des mains des grands prêtres un prisonnier qui n'est autre que Jésus. Après lui avoir posé quelques questions, il se rend compte que c'est par envie que les Juifs veulent le faire mourir. Il vient lui demander de rendre un jugement selon l'erreur plutôt que selon la vérité. Pilate est partagé entre le devoir d'acquitter le Seigneur et de céder aux plaisirs et aux caprices de ses prêtres. Pilate est partagé et au fur et à mesure que les débats se prolongent, il acquiert la conviction que pour être du côté de la vérité, il doit relâcher Jésus parce qu'il sait que Jésus est innocent. Il sait que quand cet homme se trouve la vérité même, au sens de la justice, et par là il décèle que ses prêtres sont fourbes, sont malins. À trois reprises au moins, il tentera de faire fléchir dans le sens de la justice, mais en vain. Et quand à son tour, il devra prendre position pour la vérité, il répondra, mais qu'est-ce que la vérité? Et c'est cette question qui le condamne, parce qu'il sait où est la vérité, juste en face de lui. La vérité est là devant lui, en la personne du Seigneur. Mais il veut donner la chance et laisser planer le doute. La vérité, il ne la connaît pas tout entière, mais Dieu ne nous demande pas de tout connaître, mais d'agir selon ce que nous connaissons. Et Pilate en sait assez pour que sa responsabilité dans cette affaire, devant tout le monde, équivaut devant Dieu à un refus. Dieu le tient responsable d'avoir cédé à l'erreur plutôt qu'à la vérité. Et quiconque aujourd'hui sait où est la vérité et pose la question de Pilate, démontre par là son refus d'obéir à la vérité. Les conséquences sont irréparables, ces conséquences de ce choix. 2 Thessaloniciens, verset 9 au verset 13, disent « Ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Dieu leur envoie un message. Dieu veut leur donner cette chance de pouvoir saisir cet amour de Dieu, cet amour de la vérité, cet amour de Jésus. On rapporte ceci qu'une jeune fille d'une famille chrétienne avait souvent entendu parler de la conversion. Elle avait souvent entendu parler de l'appel à la conversion. Et un jour, elle fut saisie par le message, comme cela se fait cet après-midi. et convaincue par le Saint-Esprit qu'elle devait se convertir. Mais elle a résisté à l'appel plusieurs fois. Bien qu'elle ait vécu de nombreuses années, à partir de ce jour-là, elle n'éprouva plus aucun désir d'être sauvée. Elle préférait sa condition. Elle savait la vérité, mais elle préférait l'erreur plutôt que la vérité. Et malheureusement, elle n'est pas revenue sur sa décision de pouvoir choisir la vérité. Comme pour Pilate, il y a quelque chose qui... Il y a la puissance du malin qui nous égare et qui nous séduit, loin de la vérité. Pierre nous dit ceci, qu'en choisissant Jésus, vous pouvez être purifiés. Vous pouvez purifier vos âmes en croyant à la vérité. Et je terminerai par ce verset, Apocalypse chapitre 3 et le verset 20. Voici, c'est le Seigneur qui parle, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Prions.